Nous prévoyons un taux de croissance de 5,5% pour l'Afrique subsaharienne.
Le modèle que nous avons développé au Maroc, que nous souhaitons dupliquer en Afrique subsaharienne, c'est de s'ouvrir sur les classes moyennes, les fonctionnaires et les salariés, et les très petites entreprises et les PME-PMI.
On ne gagne pas. Tout le problème, c'est le non-paiement des salaires. C'est ça qui me fait mal. Si tu travailles, on doit te payer. Nous réclamons que ça, nos droits.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, le titre de cette émission Banque, attention, danger. Nous parlons de la solidité du système bancaire international. Deux invités, Jezabel Coupet-Soubéran, professeur à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne, et Philippe Vechter, directeur de la recherche économique pour la banque Natixis Asset Management. En France, le programme présidentiel de François Hollande prévoyait la séparation des banques de dépôt et des banques d'investissement. Est-ce que cela a été fait, Jezabel Coupet-Soubéran ?
Écoutez, il y a eu une loi qui porte ce nom, qui pourrait donner l'impression que ça a été fait.
C'était nécessaire à la solidité de ce système bancaire français ?
Bon, il y a débat autour de la séparation. Moi, je suis pas persuadée qu'on renforcera la sécurité du secteur bancaire simplement en séparant les activités de banque. Mais cela étant, si vous voulez, soit on croit en la séparation et on le fait vraiment, soit on n'y croit pas et on le fait pas. Le problème de la loi bancaire française, qui s'intitule loi de séparation et de régulation des activités bancaires, c'est qu'elle fait semblant de faire de la séparation. Elle n'en fait pas. La séparation touchera moins de 1% des activités de marché des banques, des activités considérées comme des activités spéculatives devant faire l'objet de la séparation. Bon, il y a eu, cela étant, d'autres initiatives dans d'autres pays, au Royaume-Uni, aux États-Unis. Il y a également toute une discussion en Europe autour de la réforme Barnier.
Commissaire européen,
oui,
chargé des finances.
Exactement.
Jusqu'à une date récente,
récemment remplacée. Et donc il y a en tout cas une volonté de s'attaquer à des problèmes structurels du secteur bancaire. Le secteur bancaire est trop gros, les établissements bancaires sont trop gros, il y a trop de banques systémiques, c'est-à-dire des banques qui, si elles tombent, peuvent entraîner le système dans leur chute, et des banques qui sont trop largement soutenues par les pouvoirs publics. Donc il faut effectivement agir sur la structure des banques. Est-ce que on arrivera véritablement à réduire la taille des banques et à assainir vraiment, si vous voulez, la structure des banques avec des règles de séparation? C'est loin d'être certain.
Il faut saucissonner la banque qui emploie Philippe Vechter.
Je vous le redis, moi je suis pas convaincu que ce soit la bonne solution. En revanche, taxer davantage la banque dans laquelle travaille Philippe Vechter, là je pense que ça pourrait être une bonne piste.
Philippe Vechter.
Alors sur cette question, j'ai pas d'avis sur la banque dans laquelle je travaille, bien entendu. La question qui est posée traduit une situation qui est très longue parce que en fait chaque pays a essayé de mettre en avant ses champions nationaux. C'est-à-dire que que ce soit dans le traité de Maastricht, dans la création de l'Union monétaire européenne, on ne parle jamais des banques. Chacun a conservé sa capacité à gérer son système bancaire. Et le marché bancaire n'est pas du tout intégré. Et une des vraies problématiques qui est posée aujourd'hui, c'est d'observer que chacun s'est renforcé. Alors, Jezabel, tout à l'heure, parlait de la taille des banques en France, en Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas, c'est encore pire. Tous ces éléments sont des dysfonctionnements qui traduisent la volonté de chaque gouvernement, de chaque pays, de conserver ses champions nationaux en disant « ben moi, j'ai des banques, les banques, c'est puissant », etc. Là, depuis l'été dernier, les choses ont changé. On rentre dans un cadre qui est celui de l'union bancaire et qui était un élément essentiel de la gestion du système bancaire en Europe, qui va d'abord se traduire par une analyse beaucoup plus fine des situations bancaires par la Banque Centrale Européenne. On va avoir, comme le disait Georges Jeux, au mois d'octobre, les résultats de la vision que peut avoir la Banque Centrale Européenne des banques européennes. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, de voir comment ces banques vont pouvoir être recapitalisées, si c'est nécessaire, comment va évoluer le secteur bancaire. Et on va créer, à ce moment-là, un marché unique bancaire, et donc la concurrence va être de nature différente. Et je pense que si on refait le même débat dans 5 ans, les questions de taille des banques seront d'une nature très différente de celles qu'on observe aujourd'hui.
Mais Gisabelle Coupet-Soubéran, pourquoi est-ce que c'est dangereux que les masses bougées par ces banques soient 2, 3, 4 fois plus importantes que ce qui est créé de richesse nationale dans chacun de ces pays dont vous parlez ?
Ben écoutez, alors c'est vrai que les choses sont en train de changer, mais lorsque la supervision se fait à une échelle nationale et lorsqu'un établissement de grande taille, un établissement systémique, tombe, et lorsque l'État, eh bien, doit venir le sauver, on comprend immédiatement, si vous voulez, que le risque bancaire entraîne le risque souverain. Le risque souverain, lui, a vite fait de rétroagir sur le risque bancaire, et on est dans un formidable cercle vicieux, exactement comme celui qui s'est produit pendant la crise des dettes souveraines en zone euro. Donc, c'est pour cela qu'il était urgent de changer l'échelle de la supervision, de la régulation. Donc c'est en train de se faire avec l'union bancaire. La Banque Centrale Européenne va devenir le superviseur des grandes banques de la zone euro. C'est effectivement à cette échelle-là qu'il faut superviser les banques. Mais ça arrive tard. Il aurait fallu le faire bien avant. Quant au mécanisme de résolution qui se met en place également dans le cadre de l'union bancaire, c'est-à-dire des dispositifs pour résoudre les difficultés des établissements bancaires, tout ça, malheureusement, ça va pas être prêt tout de suite. Ça se met en place très progressivement, trop progressivement. Et quand la BCE va prendre ses fonctions très très prochainement, à l'automne, eh bien, si on découvre des difficultés dans les bilans des banques, ce qui va sans doute se passer parce que la BCE a commandé une évaluation des actifs bancaires, va communiquer les résultats à l'automne quand elle va prendre ses fonctions. S'il y a des problèmes, eh bien, rien ne sera véritablement en place pour régler ces problèmes.
Alors, Philippe Wester, tout à l'heure, vous parliez...
Juste une remarque sur cet aspect. Que le poids des banques aux États-Unis est bien plus faible qu'en Europe. Et quand la situation s'est dégradée à partir de 2008 ou en 2011 en Europe, on a bien vu, quand on regarde les indicateurs financiers à la loupe, on a bien vu cet effet de contagion des banques vers les gouvernements et des gouvernements vers les banques. Ce qu'on n'a pas vu du tout aux États-Unis.
Alors, petit bémol, il y a quand même 8 banques systémiques aux États-Unis. D'accord, parmi les 29 grandes banques systémiques qui sont recensées par le Conseil de stabilité financière, une institution importante en matière de régulation, eh bien, il y a 8 banques américaines et la France est pas mal placée, 4 banques françaises parmi ces grandes banques systémiques.
On aime bien avoir des champions. Alors, vous parliez tout à l'heure, Philippe Wester, d'énormes Bâle 3. Qu'est-ce que c'est exactement que cette norme Bâle 3 ?
L'idée est très simple, c'est de dire, voilà, on a pris des risques, on a vu les banques fragilisées. Il faut trouver le moyen de créer un cadre dans lequel les effets d'un risque bancaire ne se diffusent pas de façon excessive. Et donc, dans ce cadre-là, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises, que ce soit sur les ratios de solvabilité, enfin sur des éléments qui permettent à la banque de ne pas être systématiquement en risque. C'est ça l'idée derrière cela. Donc il y a des ratios en fonction des engagements pris et en fonction du capital de la banque. Et puis il y a d'autres indicateurs ce qu'on appelle des ratios de liquidité qui ont pour objectif de mettre en adéquation les engagements courts des banques avec les liquidités qu'elles pourraient mettre en face s'il y avait un risque. Donc l'idée est très simple, c'est de dire d'un côté on prend effectivement davantage de on prend des risques quand on est une banque, mais on essaye à chaque niveau de contrebalancer ce risque et que la banque ait la capacité d'amortir ce risque si éventuellement il y avait un effet négatif, un choc négatif sur celle-ci.
Isabelle,
oui, petite précision, Bâle 3, ce n'est pas une norme. Bâle Basel III, ce sont des accords hein, qui sont signés entre des superviseurs, des banquiers centraux qui se réunissent au sein du comité de Bâle. Voilà, exactement, à Bâle. C'est un comité qui dépend de la Banque des règlements internationaux. Et le fait que ce soit, si vous voulez, des accords, ça signifie qu'en fait, Bâle III, ce ne sont que des recommandations qui deviennent des normes, des réglementations que lorsqu'elles sont traduites en droits nationaux. Alors, bon, il faut mettre tout le monde d'accord au sein du comité de Bâle, ce qui veut dire qu'on arrive toujours, forcément, à de toutes petites recommandations.
Alors, on parle de surbancarisation. En tout cas, il y a une région du monde où les banques jouent encore un rôle relativement marginal, c'est l'Afrique. Écoutez ce qu'en dit Mariam Daogabala, ivoirienne et directrice de Oiko Crédit, qui fait de la microfinance en Afrique de l'Ouest.
Les banques que nous avons en Afrique sont des banques dérivées de banques européennes, ce sont des branches de banques européennes. C'est aussi parfois des banques africaines ces dernières années qui se sont créées. Mais la banque, elle est là pour servir le sommet de la classe moyenne. Ils ne sont pas faits pour servir la majorité de la population, qui sont ceux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, ou même, je dirais, le cadre ordinaire.
Est-ce que c'est un acte d'accusation contre le système bancaire africain, ça ?
On leur fait un mauvais procès parce que quand ils viennent en Afrique, ils viennent pour accompagner les industries et les commerces de ces pays-là. Quand on a une banque anglaise, c'est pour accompagner les entreprises anglaises. Quand on a une banque française, c'est d'abord pour accompagner les opérateurs français qu'ils connaissent mieux que d'accompagner les opérateurs ivoiriens.
Et les banques africaines ?
Et les banques africaines sont celles qui font le plus de crédit aux classes moyennes, mais même là, c'est encore risqué. Elles ont besoin d'avoir des standards internationaux et il y a des risques qu'elles ne peuvent pas prendre et qu'elles ne prennent pas. Je le dis à l'aise parce que je suis administrateur de banque aussi. Par rapport au travail que je fais, je suis administrateur de banque.
Lesquelles ?
Je suis administrateur de EcoBank Ghana. Et je sais que beaucoup de banques veulent bien investir et soutenir les petites et moyennes entreprises, mais que tout simplement, elles n'en ont pas les moyens ou elles sont limitées, ne serait-ce que par les ratios bancaires qui leur demandent de couvrir les risques. Vous avez des prêts ici à 2, 3, 4%, mais comment voulez-vous qu'un opérateur africain soit rentable et compétitif sur le marché si le coût de la ressource est de 16, 17%? Il ne peut jamais être compétitif par rapport à celui qui emprunte ici pour monter une affaire en Afrique.
Mais pourquoi les banques africaines imposent-elles le taux d'intérêt si élevé ?
Elle ne l'impose pas, je veux dire, c'est la nature. D'abord, la banque centrale, le taux de base bancaire, il est déjà à 4,75. Alors qu'ici, vous avez des taux à 0,50, des taux. La sortie de l'argent de la banque centrale, c'est à 4,50, 4,75. Ici, c'est à 0,15, donc c'est beaucoup plus facile. Le coût de l'argent en Afrique est élevé.
Beaucoup des banques implantées en Afrique sont européennes, vient de nous dire Mariam Daogabala. C'est comme ça que la crise s'est invitée sur le continent. C'est en tout cas l'interprétation de Jean-Philippe Prosper, vice-président Afrique de la Société Financière Internationale, filiale de la Banque Mondiale.
Les banques françaises, comme la plupart des banques européennes, à cause de la crise, donc il y avait moins de liquidités, si vous voulez, donc les banques ont dû se replier, si vous voulez, vers leur marché traditionnel.
Les banques françaises.
Banques françaises, oui, je parle de banques françaises, parce que en Europe, ils avaient de plus grands besoins. Ce qui fait qu'ils ont réduit leurs risques sur l'extérieur en général et sur l'Afrique francophone en particulier, et ce qui a permis aux autres banques donc d'avoir des parts de marché additionnelles parce que les banques françaises étaient moins présentes.
Il y a eu des mesures de régulation importantes ou des tentatives de mesures de régulation importantes qui ont été prises au niveau international. Est-ce que ces mesures de régulation s'appliquent aussi à l'Afrique ?
Ah oui, elles s'appliquent à tout le monde. Cela dit, il n'y a que quelques grandes banques africaines qui sont immédiatement affectées.
Est-ce qu'il y a des banques africaines qu'on pourrait appeler systémiques ?
Ah oui, sans doute. Systémique par rapport à quoi ? Est-ce que par rapport au marché international ou par rapport à ce qui se passe chez elles ? Je dirais beaucoup plus par rapport à ce qui se passe chez elles, parce qu'au niveau du marché international, c'est quand même relativement faible. Mais bon, une banque comme Standard Bank, c'est une banque systémique en Afrique du Sud. Si vous voulez, par exemple, au Nigeria, Guaranty Trust Bank, c'est une banque systémique au Nigeria.
Comment est-ce que vous, Société financière internationale, oui. Bras financier de la Banque mondiale. Comment est-ce que vous êtes intervenu pour aider ces banques pendant la crise financière?
Alors, pendant la crise financière, ce que nous avons fait, nous avons offert des liquidités additionnelles. Je prendrai le cas de la Standard Bank,
sud-africaine,
où nous avons mis 400 millions de dollars de liquidités additionnelles. Et nous en avons fait pareil avec d'autres banques.
Éco d'ici, éco d'ailleurs, nous parlons aujourd'hui de la situation du système bancaire international avec Jezabel Coupet-Soubéran et Philippe Vechter. Alors, l'Afrique variable d'ajustement du système bancaire international, Jezabel Coupet-Soubéran.
Effectivement, la crise a été mondiale, hein, et la déflagration s'est fait sentir partout. Bon, est-ce que c'est la variable d'ajustement? Je ne sais pas. En tout cas, j'aimerais bien réagir à quelques points là qu'on vient d'entendre. Marianne Gabala avait raison, hein, de souligner que les banques sont censées être là, si vous voulez, pour permettre le financement d'acteurs, d'entreprises, de ménages qui n'ont pas accès à d'autres types de financements, et en particulier pour les entreprises qui n'ont pas accès à des financements de marché. Donc vraiment, le cœur d'activité d'une banque, c'est ça. Hein, ça doit être de permettre le financement des entreprises. Et toute la question qui se pose, c'est la question de savoir si les banques jouent bien le jeu en la matière. Et j'aimerais lever un point de confusion, parce que après, ce qu'on entend dans son analyse, c'est que du fait du renforcement des règles, du fait des réglementations, eh bien, il est difficile pour les banques d'accorder des crédits. Je crois que la question de savoir si les banques jouent le jeu, participent comme il faut au financement des entreprises, c'est une question qui est bien antérieure au renforcement des règles. Et je pense qu'au contraire, si vous voulez, le renforcement de la réglementation, le fait d'exiger des banques qu'elles aient davantage de fonds propres, eh bien, cela ne portera pas préjudice au crédit. Au contraire, ça va obliger les banques à se recentrer sur leurs activités traditionnelles, qui sont des activités fondamentalement utiles au bon fonctionnement de l'économie. Réelle.
Philippe Vechter, l'Afrique, variable d'ajustement sur le terrain bancaire?
Sur ce point-là, il y a deux choses. Il y a effectivement des ajustements, comme c'était évoqué, de dire, et on l'a vu en Afrique ou ailleurs, chacun, dans une période de crise, a tendance à revenir, à se recentrer sur son marché. Et ça, c'est vrai, quelle que soit la zone géographique. Mais on voit aussi que le système bancaire africain se développe et qu'il y a une dynamique africaine qui est extrêmement forte aujourd'hui et à laquelle il faut être effectivement attentif. Et il y a probablement des opportunités considérables sur le marché africain, sur l'économie africaine. Et voilà, ça c'est... Alors, on est dans une phase un petit peu compliquée en Afrique parce que effectivement on voit de la croissance, mais l'Europe, qui a été un pourvoyeur de banques en Afrique, est plutôt en difficulté. Donc l'Europe est plutôt frileuse aujourd'hui par rapport à cela. Et c'est un petit peu cette difficulté à laquelle on est confronté et à laquelle il va falloir être extrêmement attentif, parce que quand on regarde l'économie africaine, on s'aperçoit que d'autres viennent avec de façon importante, et notamment les Chinois qui aujourd'hui ont un rôle absolument considérable sur la dynamique africaine. Et il y a peut-être pour nous banquiers européens des opportunités à ne pas lâcher par rapport aux Chinois. Donc là, il y a quelque chose d'important. Je voulais revenir quand même sur la question du financement, du rôle des banques dans le financement des entreprises, etc. Ce qu'on constate aujourd'hui, effectivement, la dynamique de crédit bancaire est pas très forte, parce que, la demande de crédit bancaire n'est pas très forte non plus. Quand vous discutez...
Vous parlez de la France.
On parle de la France, parce que je pense que la question était plus générale que celle de l'Afrique. Et quand on regarde la demande adressée aux banques, la demande de crédit, elle est faible. Alors bien sûr, chacun va dire, oui, moi j'avais un projet, il n'est pas passé, etc. C'est vrai, mais dans le même temps, la banque n'est pas là pour financer toutes les demandes de crédit qui lui sont proposées. Ça ne fonctionne pas comme ça, et donc c'est pas parce que vous avez un projet, vous avez une demande de crédit, que systématiquement la banque va autoriser ce crédit. Ça marche pas comme ça, et heureusement d'ailleurs, parce que il y a une analyse des risques, il y a une analyse qui est faite. Mais je voudrais juste dire que la demande de crédit aujourd'hui n'est pas forte. en Europe. Et ça, c'est une autre problématique à laquelle on est confronté. Et c'est pas parce que les banques sont particulièrement restrictives, elles peuvent l'être, mais elles ne le sont pas forcément. Mais la demande n'est pas forte parce qu'il n'y a pas de croissance.
Alors, les banques dont on parle dans cette émission sont aussi régulièrement condamnées. Rien que cette semaine, 1 milliard d'euros d'amende pour fraude fiscale pour une banque suisse en France, 48 millions d'euros pour Barclays à Londres, des banques condamnées aux États-Unis. On se souvient des 7 milliards d'euros de BNP Paribas. Ces amendes, c'est peut-être aussi une manière de réguler, mais elles intriguent, on pourrait même dire qu'elles inquiètent le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz, que ma consoeur Dominique Bayard du service économie de RFI avait rencontré à Toulouse au mois de juin dernier. Écoutez Joseph Stiglitz.
I think it's important for...
Je pense qu'il est important que le gouvernement soit dur avec les banques parce qu'elles ont fait un certain nombre de choses qu'elles n'auraient pas dû faire. Ce qui m'a troublé, c'est qu'ils ont été particulièrement durs avec les banques étrangères, les françaises, les suisses, et pas autant avec les banques américaines, peut-être parce que ces banques sont trop grosses pour être mises en faillite ou en prison. Si c'est le cas, c'est très gênant, parce que cela met en lumière un des échecs de la réforme du secteur financier. C'est que notre système est encore plus concentré. Cela veut dire qu'il sera encore plus difficile de leur demander des comptes. J'espère que l'administration ne croit pas qu'elle va bloquer les banques américaines en s'en prenant seulement aux banques étrangères.
C'est du billard à trois bandes, Isabelle Coupet-Soubéran, qui se passe aux États-Unis.
Bon, je crois que il faut nuancer un petit peu, hein, mais c'est peut-être juste un problème de timing. Mais depuis, si vous voulez, il y a quand même eu de belles amendes pour JP Morgan, pour Bank of America. Donc les autorités américaines ne sanctionnent pas que les banques étrangères. Et puis aux autorités européennes de faire la même chose, aux autorités européennes également de mettre en place des dispositifs de sanctions suffisamment sévères pour rendre les règles crédibles. Si on met en place de nouvelles règles, mais si le fait d'échapper à ces règles, effectivement, ne fait pas l'objet de sanctions, ça ne sert à rien. Donc, les sanctions, vous avez raison, ça doit faire partie du dispositif de régulation.
Alors, Philippe Vechter, oui. vous, votre banque, elle fait attention à ces choses-là ?
Forcément. C'est bon. Là-dessus, j'ai pas d'avis comme je l'évoquais tout à l'heure. Mais juste effectivement, vous parliez de timing. Stiglitz, c'était à Toulouse au mois de juin. Et effectivement, depuis, c'est passé pas mal de choses. Et sur le montant des amendes, il y a deux possibilités dans le choix qui est fait. Soit vous pinaillez sur tous les éléments à faire des petites amendes, ou vous êtes un petit peu moins pinailleur. Mais quand vous prenez quelqu'un, quand vous prenez une banque, l'amende associée est très importante. Et c'est effectivement ce qui est observé aux États-Unis, et Bank of America ou d'autres ont été effectivement condamnés, et pas simplement des banques non américaines.
Alors, il y a des condamnations financières, on vient d'en parler, il y a aussi des condamnations morales. Et pour le financier Georges Jeux, que nous avons déjà entendu dans la première partie de cette émission, les banquiers ont perdu leur âme. On l'écoute.
La finance a perdu son âme, elle a trahi ce pour quoi elle existe. La finance, c'est fondamentalement une industrie de services. Elle s'est préoccupée d'elle-même, de l'enrichissement de ses dirigeants, de toute une série d'opérations qu'elle aimait faire, sans se préoccuper de l'utilité sociale de ce qu'elle a fait. Elle doit repenser complètement son éthique et sa culture pour se centrer vers les besoins de ses clients. Et je crois que c'est à ce moment-là, et pas avant, que les banques retrouveront de la crédibilité dans les yeux du public. La banque a perdu ce qui fait son utilité économique et sociale. Quoi qu'en pensent les dirigeants de banque, 50% du bilan, que ce soit des banques américaines ou des banques européennes, est dans des activités qui ne sont pas des crédits. Donc quand elles disent « oui, mais si vous prenez telle ou telle mesure, on va devoir diminuer les crédits », la réponse est « on a vraiment beaucoup de choses à faire avant qu'on doive diminuer les crédits ».
Alors Philippe Vechter, ça revient sur vos propos antérieurs où il n'y a pas beaucoup de demandes de crédit, mais là Georges Jeux semble dire les crédits ils ne sont pas l'essentiel de l'activité bancaire à cause des banques.
Non mais juste une remarque sur ce qui vient d'être dit. On a eu à travers l'histoire toute une série de crises financières. Celle qu'on connaît en est une. Il y en a eu de nombreuses, et il y avait un bouquin fameux de deux économistes américains sur
Lesquelles?
Cette question, Reinhardt et Rogoff, This Time is Different.
Qui date de quand?
Qui date il y a 2-3 ans, et qui liste toute une série de crises financières qui sont pas forcément très différentes. Et effectivement, quand vous êtes toujours, quand vous êtes encore dans cette phase de récupération de la crise financière, forcément, le système bancaire est pénalisant, est pénalisé dans son image. Ce que disent Reinhardt et Rogoff dans leur livre, c'est que quand vous avez une crise financière de ce type-là, eh bien, il faut entre 6 et 10 ans pour récupérer. On n'est pas encore dans la période de récupération. On est à 6 ans. Donc on a encore, peut-être, on n'est pas obligé de faire les 10 ans. Mais voilà, ce que je veux dire simplement, c'est que on a effectivement, historiquement, toute une série de crises financières. Alors, je dis pas que c'est bien. Je dis simplement que ça fait partie aussi des ajustements. Ce que j'évoquais en introduction, c'est que on a eu une période où la perception du risque a été très réduite. Aujourd'hui, on est en train de faire un peu le machine arrière. On se dit, tout est risqué, il faut tout contrôler. Dans 10 ans, la problématique, le paramètre, le curseur sera probablement un peu plus entre les deux.
C'est juste une affaire de curseur, Isabelle Coupé-Soubéran?
Je suis pas sûre, moi, que ce soit qu'une affaire de curseur. Je partage assez, ce qu'on a entendu précédemment.
De
Georges Jugeux, ouais, tout à fait. Je pense que depuis un certain temps, la finance, le secteur bancaire ne sont plus au service de l'économie réelle. On a dépassé un seuil. La finance est devenue complètement dévorante et ça dévore l'économie réelle. La relation est inversée en fait. La finance devrait servir l'économie réelle. Aujourd'hui, c'est davantage l'économie réelle qui dépend et qui dépend de la finance et qui sert la finance. Et en revanche, là où je me démarquerai un petit peu de Georges Jugeux, c'est que c'est pas qu'une affaire d'éthique. C'est vraiment une affaire de règles. Il faut mettre en place les bonnes règles, les bonnes institutions pour remettre la banque et la finance au service de l'économie réelle. Donc il faut des règles plus strictes. On a un petit peu renforcé les règles, on en a parlé. On exige des banques qu'elles détiennent davantage de fonds propres, qu'elles respectent des ratios de liquidité. Bon, il y a tout un ensemble de normes un petit peu techniques comme ça, mais ça va pas très très loin. Il faut absolument, si vous voulez, renforcer ces règles. Il faut également faire très attention aux systèmes de rémunération qui sont mis en place pour que ça...
Pour les dirigeants.
Exactement, parce que ça, pour que sinon ça engendre des incitations qui sont tout à fait perverses.
Fin de cet écho d'ici, écho d'ailleurs consacré à la situation des banques dans le monde. La réalisation était assurée par Guillaume Munier. Merci à vous, Isabelle Coupé-Soubéran et Philippe Vechter, d'avoir été là. À la semaine prochaine.